Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Plaisir de voir vos sourires, vos visages. Peut-être de voir quelques visages que je ne connais pas ou que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Donc c'est vraiment, soyez tous les bienvenus. C'est vraiment un plaisir de vous voir ce matin. Comment allez-vous? Bien. Ceux qui vont moins bien, ils n'osent pas le dire. Ok. Bon, on est aussi là pour les gens qui vont moins bien. Et puis le Seigneur connaît nos cœurs. La semaine dernière, si vous étiez avec nous, on était dans un magnifique endroit, la cantine de Montcheran, au-dessus d'Orbe. Hein. Qui était là la semaine dernière? Voilà. Et puis on a eu froid. Franchement, c'était un temps automnal. Et quelqu'un d'ailleurs m'a gentiment dit, lui, que c'était une super idée de faire le culte ailleurs, mais si la prochaine fois, tu peux le faire en été. J'espérais que c'est ça vraiment le grand soleil, qu'on puisse être tous dehors. Mais c'est pas grave, on a eu vraiment un excellent moment malgré tout. Et puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment chaud. Moi, j'avais fait l'effort de prêcher en chemise, courte manche, en me disant le soleil va venir. Non, n'y est rien. Mais voilà, aujourd'hui, il est là, on en profite effectivement. Et puis, je vous avais parlé de lumière. Alors, je vais repartir un peu de là aujourd'hui. Si l'affichage revient, on a quelques difficultés parfois avec l'affichage. On a un câble à changer depuis un bon petit moment, je crois bien, mais c'est un câble qui est super long. Alors, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une fois la longueur. Donc, on avait parlé de lumière la semaine dernière. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là, bien sûr, vous pouvez réécouter le message. Tous les messages en audio sont sur notre site internet, mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, évidemment. Bien sûr, un petit coup de pub, d'encouragement. Mais c'est vrai que c'est aussi une possibilité pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Donc, c'est chouette. Et puis je vous ai posé trois questions, ou on s'est posé ensemble trois questions. Quel type de lumière suis-je? Pour quel usage? Quelle utilité? Et puis quelle est mon intensité lumineuse? Voilà, c'est un peu les trois questions. Et puis tout a été résumé avec cette belle ampoule qui nous rappelle que le petit sigle EL nous rappelle que nous sommes enfants de lumière. Enfant de lumière, et puis c'est bien plus qu'un nom de famille, d'accord? C'est plus qu'un nom de famille, la lumière a pour fonction de briller dans les ténèbres, et puis elle le fait comme moi, elle le fait avec bonté, justice et vérité, c'est une lumière chaleureuse, warm, ok? C'est magnifique, tout ça c'est sur vos étiquettes d'ampoule, vous regarderez bien à la maison en rentrant. Et puis elle conduit au salut la lumière. Elle conduit au salut, elle éclaire avec forte intensité. Alors là, les lumens, voilà, maintenant, comme je l'ai dit, on ne parle plus en watts, on parle en lumens. Et puis, alors là, il y en a une cralée. Voilà. Et puis, il faut redémarrer les switchers cast. Et puis, vous êtes là encore. Non, mais je le fais vite. Tac, comme ça. En espérant que ce soit bon pour les auditeurs en ligne. Donc, une forte intensité. Puis, j'avais dit que pour garder notre intensité pleine, nous avons besoin de marcher tout près de Jésus. Puis de veiller aussi à ce qu'on regarde avec nos yeux. Parce que la parole nous dit que les yeux, c'est la lampe de notre corps. Donc c'est comme un peu un interrupteur, ils peuvent éteindre ou allumer la lumière. Et puis, je vais montrer ceci. Tac, ça va arriver, voilà. On était parti de là. Dieu est lumière. Lui, il éclaire tout. Et puis, il apporte la lumière au travers de sa parole, au peuple qu'il s'est choisi, puis au monde entier, à travers Christ qui s'incarne, qui vient habiter dans le monde. Et puis, son œuvre se poursuit au travers de ses enfants adoptifs que nous sommes, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, dans le Fils, et eux deviennent enfants de lumière. Et c'est complètement fou parce que Jésus va dire de nous, « Vous êtes la lumière du monde ». Et c'est vrai, comme on l'a fait encore ce matin, on a de la facilité à chanter qu'il est le Dieu de lumière, qu'il est le Jésus lumière du monde, mais de considérer que nous sommes la lumière, on a de la peine. C'est vrai, hein? Mais c'est vrai, c'est une réalité, nous sommes lumière du monde. Donc désormais, dans ce monde de ténèbres, Ben, nous sommes la lumière, nous, les chrétiens. Alors, au vu de tout cela, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était demander au Père de rallumer notre lumière. Saint-Esprit, éclaire, rallume la lumière. Parce que oui, il y a souvent des vides. Oui, il y a souvent des moments où on est en pénurie d'électricité. N'est-ce pas ? Il y a des moments où il y a, voilà, la lumière, on nous vole notre lumière, où notre lumière est cachée. Notre feu peut être s'étiole. Alors, on avait besoin que le Saint-Esprit rallume notre compréhension, notre vision et notre feu pour qu'on soit cette lumière pour celui et celle qui se trouve sur notre chemin. Alors ce matin, dans la suite un petit peu de la semaine dernière, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Romains, au chapitre 13, on va lire les versets 8 à 14. Puis dans cette grande épître aux Romains, Paul donc s'adresse évidemment à l'église de Rome et il est question dans cette partie-là de la pratique de la justice, dans des aspects très concrets. Et le chapitre 12, vous le connaissez par cœur, le chapitre 12 bien connu, parce qu'il commence avec ce verset, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Ça, on connaît ce verset parce qu'il est puissant. Il nous appelle à nous donner entièrement, à nous offrir, à venir sur l'autel pour être à son service. Puis, au début du chapitre 13, il parle du rapport aux autorités. Et ensuite vient notre texte où, au verset, je vais lire le verset 8 et puis après je vais sauter au verset 12. Il dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. » Ouais, verset 11, « Cela est d'autant plus... D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Amen. Ça va? Alors, le titre de mon message, c'est l'heure. Ça va être une réalité pour beaucoup la semaine prochaine, ça va faire mal. Ça, ils vont entendre, parents, enfants, c'est l'heure pour se lever, pas le choix, l'école recommence, on reprend, il va falloir retrouver un rythme. Ah, il y en a qui ne se réjouissent pas du tout. C'est trop tôt, c'est l'heure, on n'aime pas trop ça. Voilà que Paul dit cela aux chrétiens de cette église et à tous les chrétiens qui gravitent autour et qui vont lire cette lettre, c'est l'heure, c'est le moment, c'est le temps. C'est maintenant. Et du coup, j'aimerais vous transmettre ça aussi aujourd'hui. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure. Moi, j'ai été plusieurs fois interpellé par différents textes, différentes exhortations ces dernières semaines, où il est question de veiller, d'être réveillé, d'être éveillé. Il y a veiller, être éveillé, réveillé. Jésus, parfois, veillait toute la nuit. Il priait. Il était face aux enjeux qui étaient là devant, il était là, il priait, il cherchait la volonté du Père, il cherchait la direction. Il luttait même parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des nuits blanches, je pense que oui. Alors, il y a parfois des gens qui font des nuits blanches puis qui ne voudraient surtout pas faire de nuits blanches. Je suis navré pour eux et on peut prier pour votre sommeil parce que c'est sûr que quand on veut dormir et qu'on n'arrive pas, c'est catastrophe, parce que le sommeil est hyper important. Mais il y a quand même une époque, probablement un peu lointaine pour certains, où on est ado. Puis là, faire une nuit blanche, c'est un exploit. On veut faire une nuit blanche. On veut tout faire pour y arriver. Moi, je me souviens, j'étais avec un week-end cathée, donc c'était l'équivalent de jump aujourd'hui. Et puis, on s'était dit avec mes potes, cette nuit, on ne dort pas. Alors le moniteur, je me souviens qu'il avait une très belle réaction. Il avait dit, ben, si vous voulez pas dormir, libre à vous, mais demain, les activités, c'est les mêmes. Hein, donc faudra assumer. Bon, bien sûr, ça ne nous faisait pas peur. Mais donc, on avait décidé ça. Et puis, en fait, c'est difficile de rester éveillé toute une nuit, hein, de tenir. Puis il y a toujours un moment où finalement, on s'endort. Puis le lendemain matin, on se dit, non, on n'a pas dormi. Ou on a dormi une demi-heure. Il y a le petit malin qui dit, moi, je n'ai pas dormi. Puis il n'y a plus personne pour le contredire. Hein. Lui, il a réussi. Mais pour dire que rester éveillé, même si on l'a choisi, c'est difficile. J'ai aussi eu différents travaux où j'ai travaillé de nuit. Peut-être que c'est le cas de certains aussi ici. Et puis, dans un de mes jobs, je faisais la surveillance d'un chantier. Je gérais les accès sur le chantier. Je répondais un peu aux entreprises qui bossaient sur le chantier pendant la nuit. Et puis du coup, j'avais des écrans de contrôle, c'était un peu comme dans un petit QG, comme ça. Mais c'était hyper difficile de rester éveillé. Parce qu'une fois que les entreprises travaillaient sur le chantier, ben, moi, j'avais plus grand-chose à faire. Hein. Mais si je m'endormais, quel était le risque ? Ben, il suffit que ce soit là qu'il y ait une urgence, là qu'il y ait un accident. Hein, on ne peut pas prévoir ça. Donc, il ne fallait pas que je dorme. Ou bien que c'est au moment où je dors que le chef vient faire une visite surprise, même de nuit. On ne sait pas. Hein, donc, voilà, je devais trouver des techniques pour rester éveillé. Hein. Des fois, on se pince, on trouve des trucs. Il ne faut surtout pas être trop confortable sur sa chaise. Enfin, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'escale, on a toujours des... On ne changera pas de chaise. Hein. Quand je suis arrivé ici, il y a maintenant plus que 7 ans, eh ben, je me suis dit, on changera les chaises un jour. Mais finalement, ça nous force à ne pas être trop confortable. Bon. Tout ça pour dire que spirituellement, c'est la même chose. On est appelé à être réveillé, à être éveillé. Et puis, il y a une lutte. Il y a une lutte spirituelle pour rester éveillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime bien dire aux gentils chrétiens, le village s'endort. Hein ? Pour ceux qui sont familiers avec ce genre de jeu qu'on joue dans nos camps. Hein ? Oui, des fois, il y a cette susurre là à l'oreille, le village s'endort, et puis les chrétiens s'endorment. Paul semble prendre pour acquis que les chrétiens auxquels il s'adresse dorment. Alors, il y a peut-être un côté rassurant. On se dit, bon, ben, si eux aussi dormaient, hein, voilà, il n'y a rien de nouveau, quoi. Mais en même temps, ça peut être un peu inquiétant. Ça veut dire qu'on est toujours un peu au même stade. Hein, stade. On doit nous réveiller. Le Saint-Esprit doit nous réveiller et nous secouer. Alors, peut-être vous allez me dire, mais pourquoi se réveiller ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ? Alors, être réveillé, c'est être conscient des enjeux. Justement, de ces enjeux spirituels. Cette réalité, entre cette lutte entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. J'avais parlé il y a deux royaumes qui sont là, qui s'affrontent. Et nous, on est en plein dedans. On est au combat. Donc, on a besoin d'être éveillé, d'être conscient de ces enjeux. On doit être prêt. On doit voir venir l'ennemi aussi, hein, comme des sentinelles. On doit être aux aguets. Qu'est-ce qui se passe ? Où c'est que l'ennemi veut attaquer le peuple de Dieu, finalement ? L'Église, mais aussi moi-même en tant que personne. Et puis, être réveillé, c'est aussi justement être réveillé dans la prière, c'est aussi intercéder. Pouvez-vous tenir une heure avec moi ? A dit Jésus à ses disciples. Quelle a été la réalité, hein ? C'est qu'ils dormaient, ils se sont endormis. Est-ce qu'on peut tenir dans l'intercession ? Être réveillé, c'est aussi briller dans les ténèbres, dans ce monde de ténèbres. Donc c'est vrai que dans les évangiles, lorsqu'il est question de veiller, la majorité du temps, c'est en lien avec le retour de Christ. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, a dit Jésus. Donc restez éveillés. Vous devez voir venir le maître, le Seigneur, l'époux. Hein. L'Église, c'est l'épouse. C'est une magnifique image, époux, épouse. Alors l'époux revient et puis l'Église doit être éveillée. Elle doit le voir arriver, elle doit être prête. Elle doit avoir mis sa robe, et puis sa robe, elle doit être sans tache ni ride. Elle doit être blanche pour cette noce, cette rencontre avec son Seigneur. Mais il y a une lutte parce que l'ennemi aimerait nous endormir spirituellement. Il aimerait que nos lampes soient vides. Hein, vous vous souvenez, les 10 vierges folles, cette parabole. Il aimerait que l'ennemi essaie de vider nos lampes, finalement. Puis nous, des fois, on se laisse endormir. On se laisse distraire. Par tous les plaisirs du monde, par tout ce qui se passe autour. Donc finalement, l'ampoule que je suis, la lampe que je suis, n'est plus utilisée à bon escient. Elle perd de sa luminosité. Elle se perd dans le tumulte de la vie. Elle se cache en essayant de faire comme tout le monde. Et puis parfois même, notre lumière, elle peut être brisée par les tempêtes de la vie. Ce matin, les amis, c'est le temps de se réveiller, nous dit Paul. Le jour approche. Jésus revient et puis il veut retrouver donc cette église avec les lampes allumées. Et si c'était vrai au moment de la rédaction de cette lettre de Paul, à peu près en 57 après Jésus-Christ, alors c'est encore plus vrai aujourd'hui. Jésus revient, c'est sûr. Et il a encore fait un bout de chemin. Amen. Et Paul va commencer par leur dire, c'est d'autant plus important que vous accomplissiez la loi, c'est-à-dire que vous vous aimiez les uns les autres, sachant que Christ revient bientôt. C'est d'autant plus important. Il n'y a pas de temps à perdre. S'il y a une chose à faire, c'est celle-ci, le plus grand commandement, et le second qui est semblable, hein, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est ça. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui aiment bien les téléfilms romantiques? Ah oui, Rachel, j'ai pensé à toi. Hein, je savais que tu dirais oui. Oui, hein, il y en a beaucoup qui aiment bien. Bon, il y a en général trois scénarios, deux ou trois maximum hein, sur ces genres de téléfilms. Et puis, il y a le fameux scénario où le gars et la femme n'osent pas se déclarer. Et puis finalement, l'un des deux repart à l'autre bout du monde pour reprendre son travail dans une grande ville américaine. Et là, tout semble foutu. Hein, voilà. Bon, évidemment, ça se termine toujours en happy end. Hein, ils se retrouvent quelques années plus tard. Et puis, oh, mais en fait, déjà à ce moment-là, je t'aimais. Et c'est magnifique, ils rattrapent le temps perdu. Bon. Est-ce que la vie, c'est un film américain? Non. Dommage. Hein. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Parfois, on ne déclare pas notre amour. Et puis, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. On ne peut plus le faire. Et je ne sais pas si on se rend compte que des personnes, en fait, tous les jours, meurent sans connaître l'amour de Jésus, sans avoir même entendu l'amour de Dieu pour eux, sans avoir pu le goûter. C'est quand même fou. Mais ce n'est pas, un truc à l'eau de rose, là. On ne peut pas revenir et puis aller les chercher et dire « Ah, mais j'aurais dû t'en parler. » C'est too late. Donc, il y a urgence. On doit être réveillé. D'autant plus que Jésus revient. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, dans ce texte, il est aussi question de rejeter. Donc, il est premièrement temps de se réveiller et de rejeter. Lorsqu'on se réveille, parfois on reprend conscience, hein, c'est un peu comme si d'un coup, puis on réalise que des choses se sont passées dans notre sommeil. Peut-être que ça vous arrive, hein, d'un coup peut-être vous vous levez, vous avez votre conjoint, puis vous n'avez pas réalisé qu'il s'est levé, il est déjà debout, donc vous vous réveillez, puis il n'est plus là. Hein, mais voilà, mais peut-être il y a un coussin par terre, peut-être que, je prends des petits trucs tout simples. Mais il se passe des choses des fois pendant la nuit qu'on n'est pas conscient. Et spirituellement, c'est la même chose. Donc c'est comme si on s'éveille, puis il s'est passé quelque chose qui peut parfois être violent. J'avais une petite illustration pour ça, je vais voir si ça marche. J'espère. On va voir si ça fonctionne. Le son, s'il y a du son, je ne sais pas. Bon, là, il y avait un grand, grand cri. Voilà. Alors, tant pis pour le son. Je ne sais pas. Mais vous avez vu l'idée. D'accord? Ok. Donc là, elle se réveille, elle est au milieu d'un lac. Et puis, elle est bien embêtée. Hein, puis là, c'est vraiment un cri strident. Parce que dans l'histoire, c'est de Hanoukat, c'est la nana qui n'aime pas du tout la nature. Donc voilà, se retrouver au milieu d'un lac avec un oiseau qui lui picore dessus, c'est compliqué. Tout ça pour dire que parfois on se réveille donc, puis on réalise que ben, quelque chose s'est passé en fait. On s'est vraiment endormi, puis là on se réveille, puis on prend conscience qu'en fait nos pensées elles ne sont plus comme avant. On a des pensées impures. On a envie de posséder beaucoup plus de choses. L'argent prend trop de place. Que ce qui était occasionnel est devenu une vraie mauvaise habitude. Peut-être même une addiction. Notre relation avec Dieu, elle est quasi inexistante. On ne se souvient même plus de la dernière fois où on s'est vraiment arrêté, qu'on a pris le temps de parler à Dieu, de lire la parole, de prier. On est devenu un peu indifférent aux besoins des gens. Enfin, c'est comme si pendant le sommeil, on a dérivé, puis on se retrouve effectivement au milieu d'un lac un peu plus boueux que tout bleu, enlacé par le péché. Quand on se réveille comme ça, ça secoue, hein, ça fait mal. Donc le terme qui est traduit ici par « rejeter » signifie « renoncer, se dépouiller, se défaire ». Mais j'aime l'idée de « rejeter ». Je vous le relis parce que je ne l'ai pas relu, peut-être que ça ne vous aide pas. Hein, « La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres. » Rejetons. Donc il faut rejeter. Puis j'aime donc ce verbe rejeter parce que c'est énergique rejeter. C'est pas se dépouiller ou juste voilà laisser de côté, mais il y a un mouvement. Hein, on réalise qu'il y a quelque chose quelque part, même cet oiseau là qui vient piquer sur nous. On le prend puis on le jette. On s'en débarrasse. C'est une action forte. Il faut se saisir de la chose puis la jeter d'où elle vient. Je n'en veux pas. J'en veux plus. Etc. Donc ce matin, je vous encourage à ne pas vous laisser tromper par l'ennemi, à refuser ces mensonges qui te disent peut-être « mais ça ne fait rien, c'est pas grave, tout le monde le fait, ça ne change rien, puis il y a la grâce. Ben » Oui, il y a la grâce, c'est vrai. Oui, Dieu t'aime, il te fait grâce, mais il te donne la force pour te battre et même pour fuir. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph hein, avec la femme de Potiphar qui lui faisait des avances, puis lui dans sa... Son intégrité, hein, il a laissé sa chemise, il est parti en courant. Ça lui a valu bien des problèmes, hein, mais il était droit. Il a fui. Des fois, il faut fuir. Alors, on est parfois un peu comme dans un bateau à trous, et puis il faut écoper parce que l'eau revient. L'eau revient, et puis il faut sortir cette eau. La coque, elle n'est pas parfaite, elle est faible, mais on se bat. J'ai mis un « réveille-toi et bats-toi ». Il ne faut pas être aveugle sur ce qu'on vit, sur qui on est, etc. Mais non, on se réveille, on regarde, et puis il faut rejeter les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas leur laisser de place. Du coup, il y a une lutte, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ prend la place de nos fissures, répare les trous de nos vies. Donc il est temps de se réveiller et commencer par rejeter. Et puis ensuite de ça, il est question de revêtir les armes de lumière. Ça commence par rejeter. D'accord ? Ensuite, on peut revêtir les armes de lumière. Alors, prépare ta crème solaire, tes lunettes, hein, parce que quand on va tellement être lumineux, comme le souhaite notre ami Fabien, il y a besoin de crème solaire. Hein. Les autres, ils vont devoir mettre de la crème solaire et des lunettes, tellement vous allez être lumineux. Voilà, ça va chauffer. On a besoin d'être déshabillé des œuvres des ténèbres. Hein, donc c'est bien sûr une image, hein, personne ne se déshabille. Hein. J'ai vu un gars qui pas, une nana qui est dans un lavoir là où il y a plein de machines tout ça. Et puis elle est nue, bon, c'est un dessin de BD. Hein. Et puis on la voit comme ça de dos. Puis parce que c'était écrit lorsque la machine s'arrête, enlevez vos habits. Alors elle avait enlevé vos habits. Donc, quand je parle de déshabiller aujourd'hui, hein, c'est bien sûr une manière de le dire. On doit se déshabiller des œuvres des ténèbres, on doit enlever ce qui nous colle à la peau pour être revêtu, pour être habillé des armes de lumière. Peut-être quelque chose qui vous choque quand même. Armes de lumière. C'est étonnant, non ? Les armes, c'est un combat, c'est violent. Les armes, normalement, ça tue, hein, ça mène pas la vie. Donc, il y a comme une opposition comme ça avec arme de lumière. Mais Paul voulait accentuer que le combat était violent, oui. Et on sait, Éphésiens 6, 12, hein, que nous n'avons pas, que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc le combat, il est violent. Et nous, nous avons quoi? Nous avons des armes de lumière. Alors, dans notre texte de la semaine dernière, en Éphésiens 5, il était question, pas question d'armes, mais il était question du fruit de la lumière. Mais finalement, c'est la même chose. On se bat hein, avec la bonté, avec la justice, avec la vérité. Et on retrouve aussi dans ce même texte cette injonction « Marchez et comportez-vous en enfants de lumière ». Hein, ici, au verset 13, c'est « Comportez-vous », donc « Marchez », c'est la même chose, on peut le traduire par « Marchez ». Convenablement, comme en plein jour. Donc prendre les armes de lumière, c'est ça qui va nous permettre de marcher dans la lumière, de marcher en tant qu'enfant de lumière, de marcher en plein jour. Donc sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans dispute, ni passion jalouse. La liste pourrait être encore bien plus longue. Les armes de lumière sont contraires aux armes de la nuit. Et nous sommes donc appelés à dénoncer les œuvres des ténèbres et pas de leur laisser la place dans nos vies. Il y a un autre texte qui le souligne très bien dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 4, il est dit « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Donc de nouveau, le jour du retour de Christ. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Donc ne dormons pas, encore une fois, mais veillons, soyons sobres. Puis le verset 8, à quelque part, il vient compléter nos armes. La cuirasse de la foi et de l'amour, le casque de l'espérance, du salut. La foi, l'espérance, l'amour. Voilà ce qui va nous permettre de nous battre et de rester hors des ténèbres. Ma foi en Dieu, ma confiance en qui il est, l'espérance de son retour, du jour de la délivrance. Ce sera un jour de délivrance, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'éternité avec lui dans le royaume de Dieu. Mon amour pour Dieu et puis amour que je peux communiquer autour de moi. Voilà nos armes de lumière. Donc, on se réveille et on rejette tout ce qui nous a entouré, tout ce qui nous a enlacé pendant qu'on s'est endormi. On n'a pas vu, on n'a pas remarqué ou on a pensé qu'on dérivait un petit peu, mais pas autant. Hein? Et puis là, on se réveille et puis maintenant, on revêt. On prend ses armes de lumière pour lutter contre ces choses. Parce qu'on ne veut pas se laisser de nouveau éteindre, on ne veut pas se laisser endormir, on veut rester éveillé. Et puis la troisième chose, eh ben, il est temps de se réveiller et de revêtir Christ. Hein? Et si c'était si simple, comme ce petit garçon qui met un pull, si c'était aussi simple que ça, hein? J'aurais pu vous distribuer un t-shirt ce matin. S'il y a quelqu'un qui est graphiste et qui voudrait nous faire des t-shirts. Je suis comme Jésus, ou presque. J'aurais pu vous distribuer ça ce matin, j'aurais bien aimé, hein, si j'avais eu un peu plus de temps... Et d'argent pour vous faire plaisir et rire. Mais est-ce que ça serait vrai? Comment démontrer aux gens je suis comme Jésus ou presque? Franchement, est-ce que le fait de porter le t-shirt fait que je suis comme Jésus? Hein? Non, évidemment. Ça ne suffit pas. Si c'était si simple. Revêtir Christ, c'est vivre Christ. C'est agir comme Christ et tout mettre sous son contrôle, nos désirs, nos actes. C'est manifester la même chose que Jésus, hein, la tendresse, la bonté, la compassion, l'humilité, la patience. Et bien sûr, par-dessus tout, l'amour. Donc, revêtir les armes de lumière nous permet de nous battre d'abord pour nous-mêmes, afin qu'on reste éveillé, comme je l'ai dit, et que les œuvres des ténèbres ne viennent pas nous enlacer ou éteindre notre lumière. Mais revêtir Christ, c'est bien plus encore. Revêtir Christ, c'est permettre aux autres de voir Christ au travers de nous. C'est vraiment briller. C'est nous détourner de nous-mêmes pour aimer notre prochain. Je ne sais pas vous, mais si moi je croise un pompier dans la rue puis qu'il y a un feu, je m'attends à ce qu'il éteigne le feu. Je ne sais pas. Peut-être une probabilité. Mais nous, enfants de lumière, revêtus de Christ, quelle est l'attente? Si on revêt Christ, est-ce que nous aussi, il n'y a pas une mission? Il n'y a pas quelque chose à vivre, à faire, à démontrer en étant revêtu de Christ? On ne peut pas juste porter un vêtement et puis rien en faire. Revêtir Christ, c'est vivre comme Christ, être comme Christ. Alors ma question, j'arrive gentiment au bout, qu'est-ce qui t'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'habille finalement? Est-ce que tu as mis un habit de travail? Est-ce que tu as mis un habit de loisir? Un habit qui rappelle d'où tu viens, ton patrimoine, tes origines, un drapeau? Est-ce que tu as mis un habit de violence? Un habit d'impureté? Un habit de honte? Ou un habit de tristesse? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Qui finalement te définit? Ou qui fait petit à petit partie de ton identité? Il y a des habits qu'on peut porter fièrement. Oh, j'aime bien mettre un drapeau suisse, surtout le 1er août. Je suis suisse. Hein? Mais il y a des habits qu'on ne veut pas. On aimerait tellement s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui t'habille? Mais ce matin, c'est le moment d'enlever l'habit. Quel qu'il soit, c'est le temps pour revêtir Christ. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Vous êtes la lumière du monde. Donc on ne peut pas se contenter d'une étiquette enfant de lumière. Ça doit être visible d'autant plus que le jour arrive. D'autant plus. C'est le moment, c'est le temps de revêtir Christ. On ne va pas remettre à plus tard. Des fois, on rigole parce qu'on est une église de réveil. Nous, c'est le mouvement de l'église, église de réveil. Mais les amis, on ne peut pas vivre sur un réveil des années 30. On ne peut pas. On a besoin d'être réveillé aujourd'hui. Afin d'être attentif à ce qui se passe comme des sentinelles. Afin d'être nous-mêmes prêts spirituellement et moralement à rencontrer notre Seigneur. Puis troisièmement, afin de briller, de manifester l'amour de Dieu autour de nous avec passion et zèle. Ça, c'est ce que Dieu désire. On a besoin d'être réveillés. Alors ce matin, j'aimerais terminer avec un temps d'appel. Ce n'est pas tous les dimanches qu'on fait un appel, mais j'ai vraiment ça à cœur. Parce que, de nouveau, on peut saisir de quelque chose, on peut dire « oui, c'est vrai », mais parfois, il faut passer à l'action. Il faut choisir, il faut faire un pas. Si les musiciens veulent revenir, vous êtes bienvenus aussi pour accompagner ce moment. J'aimerais, premièrement, peut-être là, on peut déjà se positionner, fermer nos yeux, se connecter à Dieu vraiment, à ne pas faire regarder à droite, à gauche, à notre voisin, mais de rester encore quelques instants concentrés, parce que c'est important. J'aimerais faire un appel pour ceux qui veulent rejeter quelque chose ce matin. Peut-être le Saint-Esprit, ce matin, te réveille, et puis tu vois d'un coup de quoi tu es entouré. Peut-être tu as dérivé, peut-être que t'as laissé aller, peut-être que t'as toléré dans ta vie des choses que tu ne veux pas aujourd'hui. Tu te réveilles, puis tu vois ça, puis tu dis non, je veux plus. Donc ce matin, tu peux choisir de te battre, de rejeter les ténèbres dans ta vie. Tu peux choisir de prendre les armes de lumière, de t'en revêtir. Et puis ça va commencer ce matin, aujourd'hui. Donc quand tu es prêt, tu pourras simplement t'avancer, puis on va prier pour toi. C'est le moment, il ne faut pas remettre ça à plus tard. Mais il y a un pas à faire, il y a un acte à faire. Et peut-être le fait de s'avancer, Ça demande du courage. Ça demande du courage, beaucoup de courage. Mais je le fais volontairement. Parce qu'il y a un acte à faire. Rejeter. Je n'en veux plus. J'aimerais faire un deuxième, pendant que peut-être voilà, ça peut résonner dans la vie de certains. J'aimerais faire un deuxième appel pour celles et ceux qui disent « j'aimerais revêtir Christ ». Revêtir Christ, c'est d'abord se convertir à Jésus. La première chose, c'est ça. Quand tu revêts Christ, c'est que tu as reçu Christ dans ta vie. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas. Tu n'as jamais fait ce pas officiellement. Tu as peut-être dit un petit peu quelque chose dans ton cœur. Peut-être ce matin, tu dois confirmer quelque chose. Et oui, je choisis Jésus. Je choisis de me revêtir de Christ. Tu peux faire ce pas aussi ce matin. En venant devant, on va prier pour toi. Des équipiers de prière qui vont être là pour t'accompagner. Et revêtir Christ, comme je l'ai dit, c'est aussi choisir de ne pas simplement porter un uniforme ou une étiquette. Chrétien ou enfant de lumière. Je suis chrétien parce que je vais le dimanche à l'église. Je suis comme Jésus ou presque. J'ai le t-shirt. Mais c'est commencer vraiment à le vivre. Et si ce matin, tu as aussi besoin d'être réveillé, d'être renouvelé dans ton feu intérieur, dans ta passion, dans ton zèle pour Dieu, alors on aimerait aussi pouvoir prier pour toi. Et puis tu peux t'avancer dans ce petit moment qui est tout doux. On reste chacun vraiment les yeux centrés sur Jésus. Alors que le chant va, voilà, la louange va reprendre, ben, ceux qui se sentent appelés, touchés par le Saint-Esprit, venez devant. On va prier. Et tous les autres vous invitent aussi à intercéder, à prier, à vous laisser toucher par le Saint-Esprit.